Donc, comme vous pouvez le voir au tableau, on poursuit notre série sur la sanctification. En fait, moi et Michel, on a décidé de faire ça tout le reste de l'année. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça, on a vraiment besoin d'être sanctifiés, là. C'est soit nous ou vous. Non, c'est vrai, c'est un faux dilemme, ça peut être les deux. Ouais, c'est ça, surtout sur la patinoire, oh! Est-ce que tu nous as vus par hasard? Ah ouais? Donc, oui, c'est ça. Brièvement, là, ça, c'est les enseignements qu'on a vus jusqu'à date, les prédications. La première, c'était ça nous encourageait à chercher la sanctification et aussi à. Il y avait comme une belle promesse au travers de ça, qu'on va voir Dieu, qu'on va contempler la grandeur de Dieu. Et c'est la plus belle chose qui peut nous arriver sur cette terre, c'est justement cette intimité avec Dieu. Le deuxième, c'était Marc qui avait prêché sur la sanctification dans le cadre de notre travail. Et après, moi, sur la famille. Et enfin, dimanche passé, Michel a prêché sur la sanctification, mais moi, je trouve que c'était surtout en lien avec notre identité. On a été sanctifiés, c'est déjà notre statut devant Dieu. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de vivre cette réalité-là, c'est de l'appliquer. C'est là où nous sommes rendus. Et moi, je vais aller un peu dans le même sens que le dernier point qu'on a vu. Donc, c'est ça. Max Lucado, un auteur qui écrit beaucoup de livres, écrit cette histoire dans un de ses livres. Il dit qu'il y avait une femme qui, dans les années 1900, au début des années 1900, lorsqu'il n'y avait pas encore d'électricité, il y avait une femme en Irlande qui était riche et économe. Et puis, à un moment donné, elle a décidé de se faire installer l'électricité. Et tous ses villageois ou ses voisins étaient surpris parce que, justement, elle était assez économe, bien qu'elle était riche. Et puis, finalement, c'est ça. Elle a été l'une des premières à se faire installer l'électricité dans sa maison. Et plusieurs semaines après l'installation, il y a un technicien qui est venu pour prendre des lectures du compteur. Et donc, il vint chez elle et puis elle lui demanda, dans le fond, si l'électricité fonctionnait bien. Puis elle lui dit, oui, tout fonctionne super bien. Et donc là, il lui dit, ben, est-ce que vous pourriez m'expliquer quelque chose, par exemple? Parce que, dans le fond, depuis qu'on vous a installé l'électricité, il n'y a pratiquement aucune utilisation qui a été faite, selon ma lecture. Puis, est-ce que vous êtes sûr que vous utilisez l'électricité? Et puis, elle dit, certainement, j'utilise l'électricité. Chaque soir, quand le soleil se couche, j'ouvre mes lumières juste assez longtemps pour pouvoir allumer mes chandelles, puis après ça, j'éteins mes lumières. Donc, elle avait bel et bien accès à l'électricité, mais elle ne l'utilisait pas. Elle n'a pas changé ses habitudes. Et sa maison était connectée, mais ses habitudes étaient inchangées. Et une question que moi, je me pose à la lumière de cette histoire-là, que je nous pose, c'est est-ce qu'on n'est pas un peu pareil? Notre maison spirituelle a été connectée à Dieu. Elle a été transformée. Il y a un pouvoir extraordinaire qui est là, qui est à notre disposition. Mais est-ce que nous avons changé nos habitudes aussi? Est-ce que nous faisons usage de ce pouvoir? Et ça, c'est une question, dans le fond, que je veux qu'on se pose ce matin. Donc, ce n'est pas qu'on a été sanctifié en théorie que là, maintenant, nous, on doit mettre ça en pratique. C'est plutôt que Jésus nous a vraiment sanctifié en pratique, en réalité, mais maintenant, on doit l'appliquer, on doit l'utiliser, on doit faire usage de ce statut nouveau qu'on a. Au même titre que la madame, elle a eu l'électricité en pratique, elle l'avait vraiment. C'est juste son application qui n'a pas été mise tout de suite en pratique. Donc, je vous encourage à tourner avec moi dans Colossiens 3, on va lire les versets 1 à 17. Oui, première chose qu'on voit dans ces versets, c'est un peu cette idée d'être avec Christ, d'être uni à lui, et que sa vie nous habite, et que son amour nous habite, et que tout ce qui est sien soit notre aussi. Donc, on peut lire encore, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Cette idée que lorsqu'on met notre foi en Jésus et qu'on, qu'on l'accepte comme Seigneur, qu'on lui donne notre vie, tout ce qui est vrai presque de Jésus est vrai aussi pour nous. Jésus est mort à la croix, nous, nous sommes morts à la croix. Jésus est ressuscité, nous aussi, on est ressuscité. Il siège dans les cieux, bien, nous aussi, on est en haut déjà avec lui. Comme Michel disait la semaine passée, c'est pas qu'on est en bas et on essaie d'avoir un style de vie qui est comme en haut, mais on est vraiment en haut et on se dit « qu'est-ce qu'on fait en bas parfois? » Donc, c'est vraiment cette idée que, aussi, tout ce qui est vrai de Jésus, comme Jésus est saint, Jésus est juste, Jésus est parfait en amour, Jésus était doux, eh bien, ça, c'est son identité nous est transférée. Maintenant, nous sommes appelés à tout simplement laisser cette vie-là nous habiter à l'intérieur et diriger nos vies. Dans les eaux froides du Groenland, il y a plusieurs icebergs. Il paraît qu'il y a des icebergs à perte de vue. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu les observes attentivement, on voit, il paraît, une différence entre les petits morceaux de glace et les petits icebergs en contraste avec les gros icebergs. Il paraît que parfois, il arrive que, dans le fond, les petits icebergs vont aller dans une certaine direction, mais les gros icebergs vont aller dans une autre direction. Et qu'est-ce qui explique, dans le fond, que les icebergs vont bouger dans des directions différentes? L'explication est assez simple, c'est que, dans le fond, il y a des vents de surface qui déplacent les petits icebergs et les morceaux de glace. En fait, j'ai même une belle petite image. Et donc, c'est ça, pour les petits morceaux de glace, les petits icebergs, ce sont les vents de surface qui les entraînent, dans le fond, qui les ballottent ou qui les déplacent. Mais pour les gros icebergs, qui ont vraiment une grosse superficie en dessous de l'eau, c'est plus les courants marins qui vont les déplacer. Donc, on voit la différence entre, dans le fond, ces deux grosseurs de icebergs. Et puis, c'est un peu la même chose pour nous. Lorsqu'on fait face soit aux tentations, aux épreuves ou même à la tragédie, lorsqu'on ressent un gros coup de vent, dans le fond, qui frappe notre vie et qui nous incite à prendre une certaine direction, je pense que c'est aidant de se rappeler qu'à l'intérieur de nous, il y a un courant plus profond. Il y a la vie de Christ, il y a cette union qu'on a avec Jésus qui est toute son identité qui nous anime et qui guide notre vie. C'est ça qui, bien que des fois on a des coups de vent, c'est ça qui dirige notre vie. C'est la force primaire par laquelle on guide notre vie. Amen. Donc, c'est le mouvement de l'amour de Dieu et de la sainteté de Dieu qui représente le courant plus profond qui influence ma vie. Donc, le reste du passage des Colossiens suppose donc cette union à Jésus qui suscite en nous cette force directrice. Un autre verset qui est dans ce sens de cette union à Jésus qui fait que, dans le fond, sa vie m'anime, c'est Galates 2, 20, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Moi, j'aime tous les passages des Épîtres de Paul, parce que je ne pense pas qu'il y en a... Je n'ai jamais remarqué qu'il y en a... Peut-être dans Jean aussi. Mais quand il dit que Christ m'a aimé, il peut dire qu'il sent que Christ m'a aimé. Ailleurs, il dit « Je suis persuadé que rien ne va me séparer de l'amour de Dieu. » Ni, là, il liste toutes les choses, mais de cette expérience de l'amour de Dieu qui motive toute la vie de Paul et qui fait en sorte qu'il est prêt à aller jusqu'à l'autre bout du monde pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle. Ça, je trouve que c'est beau et c'est ça vraiment la vie chrétienne. C'est ça qui nous anime au plus profond de nous. Et c'est ça aussi qui nous apporte au deuxième point, se dépouiller. Une fois qu'on a goûté à ça, on veut plus de notre ancienne identité. Donc, les versets qu'on a lus de Colossiens poursuivent en disant ceci. « Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sortiraient de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques. » qu'est-ce que veut dire dépouiller le vieil homme? Bien, un peu pour reprendre l'illustration que j'ai prise au début, c'est pour la femme qui vient de recevoir l'électricité, c'est tout simplement changer ses habitudes, c'est d'agir en fonction que maintenant tu as l'électricité et de ne pas juste en faire un usage minimal et pour garder tes vieilles habitudes, mais c'est de changer tes habitudes et tes pratiques que nous avions lorsque nous vivions sans Christ. Si je mentais, pour me sortir du pétrin avant, je renonce à cette porte de sortie facile maintenant. Si je convoitais ce qui attirait mes yeux avant, je renonce à cette tentation maintenant. Si je donnais libre cours à ma colère avant, je fais usage de la maîtrise de soi maintenant. Si j'utilisais mes paroles pour blasphémer ou rabaisser avant, je les utilise pour glorifier Dieu et honorer mon prochain maintenant. Donc, comment étiez-vous avant et comment êtes-vous maintenant? Y a-t-il du progrès? Et je sais que dans 1 Thessaloniciens 4, 1, je ne l'ai pas dans mon PowerPoint, mais c'est un beau verset que j'aime. 1 Thessaloniciens 4, 1. On va tourner ensemble brièvement. Un passage où est-ce que Paul s'apprête à parler de la sanctification. Et il dit ceci aux Thessaloniciens, « Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur. » Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites, eh bien, progressez encore. Et puis, c'est ce que je pense que je veux vous dire aussi. Je sais que vous le faites. Mais progressons ensemble encore plus dans ce sens-là. Et comment maintenant se dépouiller du vieil homme? Peut-être avant de répondre à cette question, un autre passage. Où est-ce que, dans le fond, Paul nous aide à réaliser quelque chose de super important quand on parle maintenant de ça. Et puis, c'est cette idée qu'en Christ, on a vraiment eu une séparation de notre ancien moi et de notre nouveau moi. On a vraiment un nouveau cœur. Et puis, il ne faut jamais confondre notre nouveau cœur avec notre chair. Ce principe qui est en nous qui fait qu'on est porté vers le mal. Il faut vraiment faire la distinction entre ces deux-là, parce que si on mélange ces deux-là, on va toujours se taper dessus et dans le fond, on ne pourra jamais vivre victorieusement parce que la première étape pour se dépouiller, c'est de dire « c'est pas moi ça, c'est pas moi ça, c'est le... » Donc, lisons ceci, c'est dans Romains 7, 14 à 21. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Disons, pour reprendre un des exemples que j'ai donné, convoiter. Comme, là, je me surprends à convoiter, puis là, je me dis, bien, qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas convoiter, c'est la loi de Dieu, puis je veux plaire à Dieu. Maintenant, pourquoi je l'ai faite? Si je dis, je ne veux pas convoiter, je suis d'accord avec ce que Dieu dit, avec la loi de Dieu, dans le fond, c'est ça que Paul dit. Je me mets d'accord avec Dieu, je me mets du côté de Dieu contre la convoitise, puis je dis, non, je ne veux pas de ça. Mais si je le fais quand même, pourquoi d'abord? Qu'est-ce qu'il fait en moi? Bien, c'est le péché qui agit en moi. Donc, c'est la chair, c'est un autre principe qui est en moi, duquel je dois me dissocier pour pouvoir vraiment, dans le fond, mettre à mort et me dépouiller de cette chair, de cette pratique-là. Donc, première étape, ce serait vraiment de se dissocier de la chair. C'est vraiment de dire, il y a une tendance en moi que moi-même, elle me répugne. Moi-même, elle me dégoûte. Moi-même, je veux pas être une telle personne. Je veux pas être reconnu pour être une telle personne. Je vais avoir un exemple concret bientôt. Mais je me positionne avec Dieu contre ça. Puis c'est pas moi ça. Donc peut-être une phrase que vous avez sûrement entendue déjà ici quelques reprises. Reconnaître que la chair est stupide. Il y a ce principe en moi qui va toujours vouloir retourner à ses vieilles affaires. Mais se mettre du côté de la parole et la condamner, dans le fond. J'ai un exemple concret. Prenons la colère. La colère, ce n'est pas toujours nécessairement mal, mais si on se laisse aller facilement, la colère, il y a certainement un problème. Donc, Seigneur, tantôt, j'ai rappelé... Là, c'est un exemple qui n'est pas nécessairement arrivé tantôt. Là. Donc, Seigneur, tantôt, j'ai rapidement manifesté de la colère. Je ne veux pas être colérique et ce n'est pas ma nouvelle nature. mais ma chair qui l'est, qui est portée à ça. Moi, je suis sanctifié, je suis uni à Christ, toute son identité m'a été transférée. Donc, je reconnais que ma chair est stupide, c'est-à-dire qu'il y aura toujours en moi cette tendance, peut-être des fois moins marquée, mais c'est ça, elle va peut-être toujours revenir. Donc, on n'a pas à se culpabiliser parce que cette tendance-là est en nous. Mais ta parole dit « rejeter toute colère ». On vient de le lire, peut-être qu'on l'a lu vite fait, on a tellement lu, ça n'a pas accroché votre regard, mais ta parole dit de rejeter toute colère, que tu demandes d'être lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je renonce donc à être prompt à la colère. Fait que c'est de passer par ce processus, dans le fond, de se dissocier de ce principe-là et puis de se positionner dans la même place que Dieu pour condamner ça et se mettre d'accord avec lui sur la base de sa parole. Peut-être avant de passer à ce point-là, une petite anecdote. Un jeune chrétien se rendit coupable d'une amende impayée. Il a eu des tickets de vitesse, là, puis il n'a pas payé ses amendes. Donc là, il y a eu un papier qui arrive de la cour et là, il est convoqué en cour, dans le fond, pour ses amendes, ses tickets de voiture impayés. Et là, il arrive devant le juge et il essaie tant bien que mal d'expliquer la situation. Il dit, « Vous savez, monsieur le juge, ce n'est pas de ma faute. Le nouvel homme en moi désire faire le bien, mais c'est mon ancienne nature. C'est le vieil homme en moi qui a commis la faute. » Ah bon, le juge répond, il dit, je vois. Puisque c'est votre vieil homme qui a commis ce délit, je le condamne à 30 jours de prison. Et puisque votre nouvel homme a aussi été complice, je le condamne lui aussi à 30 jours de prison. Non, c'est juste une petite blague sur le fait que c'est ça, comme on. Il faut se dissocier, mais il faut vraiment se dissocier. Il ne faut pas faire semblant. Donc, ici, il faut se dissocier, il faut se dévêtir, mais pour se revêtir. Et puis, encore là, je vais peut-être juste lire ce qui est souligné. Après s'avoir dépouillé et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Encore là, après ça, verset 12, on nous invite à se revêtir d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, toutes des caractéristiques que Dieu possède et que Jésus aussi a démontrées. Enfin, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. J'ai trouvé cette histoire qui est vraiment intéressante. C'est une infirmière qui écrivit ça dans un article. Elle dit que, dans le fond, elle découvrit comment... Bien, elle explique comment elle a appris à voir l'image de Dieu dans sa patiente. C'est une infirmière. Et puis, elle avait une patiente qui s'appelait Hélène. Pas Babin. Mais donc, c'est ça. Hélène, sa patiente, elle était complètement dépendante, dans le fond. Elle a eu un anévrisme au cerveau et puis elle a perdu le contrôle de son corps. Et puis, selon les médecins, elle était même totalement inconsciente, dans le fond. Et elle ne ressentait pas de douleur ou... c'est ça, elle n'était pas consciente de son environnement autour d'elle. Ce qui a fait en sorte que... oui, c'est ça, il fallait la nourrir deux fois par jour, il fallait la changer de place assez souvent pour pas qu'elle ait des malaises ou des engourdissements et tout. Mais le personnel de l'hôpital sont rapidement venus à la traiter comme un objet, justement, parce qu'elle était inconsciente. Elle n'était pas consciente de son environnement, fait que c'était vraiment comme froid et vraiment comme impersonnel comme approche. Et puis... donc, c'est ça. Mais de son côté, la jeune infirmière, elle décida qu'elle ne pouvait pas traiter Hélène de cette façon-là. Et puis, elle s'est dit qu'elle allait comme parler à Hélène, comme si elle était éveillée. Elle lui chantait des chansons, elle l'encourageait. Et puis, elle lui apportait même des petits cadeaux. Et puis, un jour, alors que les choses allaient comme vraiment mal pour l'infirmière, elle a été tentée de comme juste un peu de déverser sa colère sur sa patiente qui est inconsciente, mais elle a décidé de garder son approche vraiment pleine d'amour. Puis c'était le jour de l'action de grâce. Donc l'infirmière dit à Hélène, qui est inconsciente, dans le fond. Bon, tu sais, aujourd'hui, je suis un peu mécontent d'être là parce que c'est l'action de grâce, puis je pensais que j'allais être en congé, mais finalement, à y repenser, je suis vraiment contente de partager l'action de grâce avec toi, puis, tu sais, j'aurais pas voulu, manquer cette journée-là avec toi, quelque chose comme ça. Et puis, au même moment, bon, elle parlait sans la regarder, là, elle faisait ses affaires autour, au même moment, le téléphone sonne, et puis elle se revire, et elle voit Hélène qui est réveillée et qui pleure, qui a plein de larmes, et puis qui a même mouillé comme tout son vêtement ici, et puis qui tremble un petit peu. Et puis, fait que c'est ça, était vraiment comme, c'est comme si elle a démontré que dans le fond, tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle disait, toute l'atmosphère qu'elle apportait, c'est comme si elle le ressentait au plus profond d'elle. Et finalement, c'est ça, comme Hélène, elle est décédée dans les semaines qui ont suivi. Mais cette réaction-là, ce signe que, dans le fond, elle avait comme perçu un peu tout ça, ça a changé toute l'attitude du personnel à l'hôpital. Et ça l'a vraiment touché les gens. Mais c'est l'idée de se revêtir d'amour, hein, comme c'est écrit ici. C'est le lien de la perfection et d'ardente compassion un peu plus haut, de bonté. Et même à l'égard des personnes qui ne peuvent absolument pas nous rendre la monnaie. T'sais. Un petit bébé, c'est dépendant, mais il peut au moins nous faire un petit sourire. Hein. Mais une femme comme ça, c'était tellement comme elle ne pouvait rien rendre. De pouvoir exercer cet amour-là à l'égard non seulement de ceux qui ne peuvent pas nous le rendre, mais même de ceux qui nous rendent le contraire, c'est le lien, la perfection que Jésus nous appelle à avoir. Et je vais revenir là ici, mais puisque je suis là, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. John Wesley dit ceci, « Être sanctifié, c'est être perfectionné dans l'amour. » Être sanctifié, c'est être perfectionné dans l'amour. Et puis, c'est intéressant parce que justement, le verset précédent, c'est ce que ça dit, « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Et Matthieu 6, 48, Jésus dit ceci, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mais c'est être parfait en quoi? Est-ce que c'est être parfait en connaissance, tout savoir? Est-ce que c'est être parfait en hockey? Est-ce que c'est être parfait en, je sais pas, à l'école, au travail? C'est-tu être parfait en tout ou c'est être parfait en quelque chose de plus précis? Si on lit le contexte, et en fait, je vous invite à le lire avec moi, on va voir que Wesley avait peut-être pas tort, que le lien de la perfection, c'est l'amour. Et la perfection que Jésus nous invite à avoir, c'est une perfection d'amour, qui est à dire, c'est-à-dire de viser toujours le bien de l'autre, de s'occuper du bien de l'autre. Il n'y a pas de verset 48? Moi, j'en ai un, en tout cas. Tu n'en as pas pour vrai? Hein? 5,48, t'as gagné. 1-0, Michel. La sagesse, l'expérience gagne sur... Ouais, donc, je voulais lire à partir de... 43. Et toujours avec la question, quelle sorte de perfection Jésus nous invite à imiter, là, d'être parfait comme notre Père céleste? Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les injustes et sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ou « Ayez un amour parfait comme votre Père céleste a un amour parfait. » Brièvement, pour terminer, juste l'aspect plus application de se revêtir. On a vu les trois premiers points, mais les deux derniers. Simplement, après avoir rejeté ce qu'on ne veut pas être, et s'avoir dissocié de la chair, d'avoir pris la parole et la prière pour condamner ça, d'affirmer le désir de notre cœur nouveau par la parole et la prière, de prendre un autre passage qui dit « Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, tout ça, la maîtrise de soi. C'est ça que je veux être, moi, c'est ça que je veux devenir. » Et puis, prier là-dessus, et puis là, on va expérimenter vraiment la vie de Jésus qui vient puissamment nous transformer à son image et nous aider à appliquer cette réalité-là. Donc, bref, conclusion. Communion avec Jésus, laissons sa vie nous habiter, ce iceberg-là qui est plus gros et qui se laisse attirer par les courants marins, c'est ça, nous, qui nous anime, c'est la vie de Jésus. Et dépouillons-nous de ces pratiques qui sont vieilles, dépassées, que Christ nous appelle maintenant à adopter de nouvelles, comme cette dame qui s'est fait installer l'électricité, et puis à se revêtir, dans le fond, de ce qu'on veut vraiment devenir, qui est à l'image de Jésus. Amen. Fait que prions ensemble. Seigneur, tu as fait en sorte qu'on fasse partie de ton plan merveilleux. C'est un plan vraiment merveilleux, Seigneur. Tu veux nous faire grandir et on veut grandir. Et tu nous montres le chemin, Seigneur. Tu nous donnes la puissance pour pouvoir grandir. Et ma prière, c'est que, oui, on progresse tous de plus en plus dans ce sens, qu'on puisse de plus en plus expérimenter cette union avec toi, puis qu'on puisse, Seigneur, sentir que tu guides nos vies, que tu guides nos pas. Mais aide-nous, Seigneur, aussi à percevoir peut-être ces petits raccoins de nos cœurs, où est-ce qu'il y a peut-être un brin d'orgueil ou d'autres éléments que tu veux travailler, Seigneur, et donne-nous cet amour de la parole pour pouvoir l'utiliser afin que se laisser transformer par toi, Seigneur. Et merci pour chaque personne qui est ici, justement, de les bénir surabondamment et que cette parole puisse résonner dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen.